Europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Vincent Souriau. Guillaume Meunier.
Salut à tous, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Ce matin, vous avez liké une photo sur Facebook. Ensuite, vous êtes parti au boulot avec une appli GPS pour éviter les embouteillages. Vous avez commandé à déjeuner sur votre smartphone et vous avez pris des rendez-vous via votre agenda électronique. Combien de traces avez-vous laissées sur le net aujourd'hui? Qui récupère ces informations et pourquoi faire? Protéger le citoyen européen, réguler le monde numérique face à des sociétés pour qui les données personnelles sont avant tout une économie. C'est un défi pour l'Europe qui vient de hausser le ton en adoptant des mesures qui n'ont jamais été aussi contraignantes à l'intérieur de l'Union. Et pourtant, le débat continue. Le continent européen a-t-il les moyens de contrôler les transferts de données hors de son territoire? Au nom du commerce, faut-il transiger avec l'industrie américaine? L'intimité n'est-elle pas un bien marchand comme les autres? Trois invités pour en parler dans Carrefour cette semaine. Bonjour Isabelle Falque-Pierrotin.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vous dirigez aussi le G29 à l'échelle européenne. On peut dire que vous représentez l'ensemble des CNIL en Europe.
Effectivement, je préside le G29 qui est le réseau des 28 autorités européennes de protection qui existent dans chacun des pays européens.
Est-ce que vous êtes le gendarme de l'Europe en matière de données personnelles ?
Non, on n'est pas le gendarme. Disons qu'on essaye d'accompagner la révolution numérique et de faire en sorte que la protection des données fasse partie intrinsèque de cet univers numérique et respecte effectivement le droit des citoyens européens, des 500 millions de consommateurs européens, mais en même temps permette à l'Europe d'être une puissance numérique.
Bonjour Philippe Aigrin.
Bonjour.
Co-fondateur de la Quadrature du Net, c'est une association qui milite pour la défense des libertés fondamentales. Vous avez coédité cette année un recueil de nouvelles intitulé « Surveillance », c'est au pluriel et c'est paru chez publi.net. Vous avez travaillé aussi à la Commission européenne, si je ne me trompe pas.
C'est exact.
Qu'est-ce que vous faisiez là-bas ?
J'étais responsable pendant quelques années de la recherche et de l'innovation dans le domaine des logiciels, mais en particulier des logiciels libres.
En duplex de Bruxelles, un homme qui est belge, mais pas seulement, il est aussi député socialiste européen. Bonjour Marc Tarabella.
Bonjour.
Merci au Parlement européen qui vous accueille dans ses studios aujourd'hui. D'abord, un constat, il n'y a pas qu'en Europe qu'on parle de protection des données personnelles. Il y a des législations nationales un peu partout dans le monde. Mais c'est très souvent les Européens qu'on entend monter au créneau pour défendre le droit à l'oubli, l'anonymisation, pour dénoncer la marchandisation des données. Est-ce qu'il y a une culture européenne de la vie privée, Isabelle Falque-Pierrotin?
Oui, je crois qu'il y a une culture européenne des données. Et effectivement, en Europe, on considère que les données sont bien sûr un actif économique qui peut être valorisé. Mais en même temps, on considère que derrière une donnée personnelle, il y a un individu avec des droits. Et que, de ce fait, la protection des données, c'est un droit fondamental. C'est pas simplement un droit économique. Et donc, je crois que là, l'Europe a un message qui est assez fort à faire entendre. Et ce message, il faut qu'on le décline sur le territoire européen. Et le cas échéant, il faut qu'on puisse le porter aussi à l'international.
En 1995, quand l'Europe adopte la directive qui est encore en vigueur aujourd'hui, c'est du jamais vu à l'époque. Jamais un ensemble de cette taille n'avait régulé l'exploitation des données personnelles, n'est-ce pas ? C'est une première historique.
Alors effectivement, en 1995, il y a des lois sur la protection des données qui existent en Europe, mais le fait qu'un continent adopte une approche intégrée, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, mais je dirais qui était imparfait. Dans la mesure où cette approche était une directive, c'est-à-dire donner lieu à des transpositions nationales, ce qui fait que, en fait, on était face à un continent européen qui était fragmenté sur le plan juridique par rapport à ce marché européen de la donnée. Et donc c'est ça que le règlement européen, qui est donc le nouveau cadre juridique qui vient d'être adopté, c'est ce contre quoi ce règlement européen essaye de lutter, c'est-à-dire de fournir une loi européenne vraiment commune et uniforme à travers toute l'Europe.
Philippe Aigrin, s'il a tenu jusqu'ici ce cadre juridique qui a donc été mis en place en 1995, c'est parce qu'il était bien pensé, selon vous, ou parce qu'on a un peu laissé tomber la question ?
Je pense qu'il avait des éléments qui étaient des éléments solides et qui étaient en particulier ceux qui raccordaient La question de l'intimité, qui a une meilleure traduction de l'anglais privacy que la vie privée, a des droits fondamentaux. Et ce cadre-là, il est stable et il est stable depuis la loi de 78 en France, on peut dire. Par contre, ce qui s'est passé, c'est dans les 10 dernières années, il y a eu une révolution considérable que, à mon avis, dans un sens problématique, qui n'est pas une révolution technologique, mais qui est une révolution des offres commerciales et des pratiques des gens d'acceptation de ces offres commerciales. Parce qu'en fait, si vous considérez la situation en 2005, il y avait très peu de grandes applications du web qui étaient centralisées. Il y avait pratiquement que les moteurs de recherche à cette époque-là. Et en quelques années, on s'est retrouvé avec des applications de la navigation dont vous parliez dans votre introduction, à l'hébergement de médias avec des choses comme YouTube ou Deezer ou Spotify ou tout ce que vous voulez. On a créé des services auxquels les gens contribuent leurs données, et en fait les gens devenant de cette façon en fait la marchandise, le produit que les opérateurs de ces plateformes vendent à des annonceurs, des profileurs.
C'est ça, c'est le proverbe qui dit « quand c'est gratuit, c'est vous le produit ».
Voilà. Donc, en fait, au moment de l'élaboration du règlement dont a parlé Isabelle Falferotin, il y avait une grosse difficulté, c'était « peut-on adapter le cadre législatif en gardant les concepts tels qu'ils sont, par exemple le concept de protection des données, alors que là vous avez parlé vous de traces, hein, est-ce que les traces c'est la même chose qu'une donnée ? Donc ces difficultés-là, la réponse qui ont apporté les co-législateurs, le Parlement et les États, c'est une réponse un peu ambiguë, c'est-à-dire ils n'ont pas voulu faire une révolution conceptuelle et ils ont voulu rester dans un cadre stable, mais quand même essayer de traiter les questions qui sont liées à ces grands opérateurs et intermédiateurs.
Oui, non, je voulais juste rajouter en disant que la législation européenne de 1995, comme les législations nationales qui existaient dans les pays européens avant, c'était des législations qui, dans le fond, étaient encore sur une vision très statique. C'est-à-dire, il y a des fichiers, il faut avoir des droits par rapport à ces fichiers. Bien sûr, il y a des données dans ces fichiers, mais on n'est pas face au déluge de données, à l'échange systématique de données que nécessite aujourd'hui l'innovation. Donc, si vous voulez, les principes de base qui étaient dans la directive de 95 et dans les textes comme le texte français, ces principes de base, on va les retrouver et on va les garder. Mais en revanche, la dimension de l'utilisation de la donnée, la fluidité de cet univers numérique profondément dynamique et donc l'aspect économique aussi, ça c'est quelque chose qui n'existait absolument pas en 95. Donc c'est pour ça que, au fur et à mesure que le temps a passé, il a fallu réfléchir en se disant il faut qu'on s'adapte aux besoins du numérique et il faut qu'on soit capable de réinventer dans le fond la protection et les droits des personnes dans un univers qui a complètement changé. Donc comment fait-on pour garder ce droit fondamental tout en permettant une circulation de la donnée au niveau que nécessite aujourd'hui le numérique ?
Marc Tarabella, il fallait la changer, oui. Il fallait la réviser cette directive de 1995.
En 1995, Internet était assez balbutiement, la grande partie des personnes n'avaient pas Internet, les SMS commençaient à apparaître, mais c'était quasi tout nouveau, le fax était encore peut-être à son apogée, mais aujourd'hui, qui fait encore un fax ? Il n'y a pratiquement personne. Donc ça veut dire qu'on arrive avec des technologies qui sont très vite obsolètes et qui, à un moment donné, suscitent un engouement tel que ça dépasse très souvent ce que le cadre légal a prévu. Donc il était devenu nécessaire de légiférer pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement on se rend compte que toutes ces nouvelles applications, ces logiciels, leur performance, que leur développement exponentiel fait que effectivement les données collectées sont de plus en plus nombreuses, c'est de plus en plus aisé pour les opérateurs de les collecter. Quelles utilisations en font-ils ? Donc ça, c'est l'objet du débat. Et deuxièmement, c'est vrai que les textes sont pondus, en tout cas votés à un moment précis, et que la technologie évolue de telle manière qu'il est nécessaire de s'adapter. Et comme Madame Falk-Pirotta l'a très bien dit, dit. Vous savez, au Parlement européen, on vote à travers deux textes. Les directives, c'est vrai qu'elles doivent obliger les États membres à s'adapter, à adapter leur législation dans un délai de 2 ans, et de manière assez disparate. Donc ça veut dire que les lois ne seront pas les mêmes d'un État à l'autre. Tandis qu'ici, par le biais d'un règlement qu'on a voté le 14 avril dernier, le règlement, il s'applique partout de la même manière en Europe. Le règlement, c'est quand on décide, par exemple, de faire diminuer le tarif d'itinérance téléphonique, le roaming, partout en Europe, à partir du 1er juillet, il disparaîtra l'année prochaine, et donc, partout, ce sera la même chose. Donc, grâce à des autorités comme la CNIL, et leurs échanges de données avec les autorités nationales, la Commission européenne, pour autant qu'elle ait la volonté, pourra, évidemment, de manière plus facile, enquêter sur les dérives éventuelles des gros opérateurs, parce que ce sont eux, les grands collecteurs de données, qui les utilisent à d'autres fins que celles pour lesquelles l'application est faite. J'espère que la Commission européenne, qui malheureusement se retranche souvent devant le fait que c'est une compétence nationale, certes il y a 28 autorités nationales, et le G29, clairement la Commission a le devoir de les faire respecter, et donc d'enquêter, et éventuellement d'adopter des sanctions si besoin est, quand effectivement la loi, notamment sur les données, la loi sur la vie privée, est évidemment violée.
Alors, ce règlement qui a donc été voté par le Parlement européen le 14 avril, vous avez écrit, Isabelle Falque-Pierrotin, que c'était en quelque sorte l'Europe qui reprenait sa souveraineté numérique. Est-ce que ça va vraiment tout changer ?
Alors, je crois que ça change la donne. Je crois que ça change la donne vis-à-vis des acteurs européens d'abord, parce que, comme il a été dit, ça leur offre un cadre véritablement rénové et unifié sur tout le territoire européen. Donc ça crée un vrai marché européen de la donnée. Mais ça change aussi la donne vis-à-vis des acteurs internationaux, parce que, vous savez, aujourd'hui, à la CNIL, nous, une partie de notre travail, c'est de convaincre, ou du moins de débattre avec les acteurs internationaux pour leur faire comprendre que s'ils viennent opérer en France, dans certains cas, le droit français leur est applicable. Avec le règlement européen, ce débat va être beaucoup plus simple. Parce qu'avec le règlement européen, on a une disposition qui dit que dès que vous offrez un bien ou un service à destination d'un consommateur européen, le règlement, le droit européen, va vous être applicable. Donc, même si vous n'avez pas d'établissement en Europe, si vous prestez de la Silicon Valley, du fin fond de la Chine ou de l'Inde, si vous offrez à travers un site internet, à travers une appli, un service à un consommateur européen, toutes les règles et notamment les garanties pour les citoyens européens vous sont applicables, vous devez les honorer. Donc si vous voulez, en termes de souveraineté, c'est très intéressant pour l'Europe, et en plus, en termes de concurrence, ça remet les acteurs européens à égalité de concurrence avec les acteurs mondiaux, puisqu'ils vont se battre, entre guillemets, avec les mêmes règles désormais.
Philippe Aigrin, vous êtes content de ce nouveau texte ?
Content dans l'intention que vient de décrire Isabelle Falque-Pierrotin, oui. Mais par contre, j'ai un profond doute. Je suis persuadé que si on continue à accepter comme un fait établi le fait que l'économie numérique serait une économie des données, que les applications innovantes auraient besoin d'une circulation et d'un marché d'échange de données, que ça serait un fait. Là, je crains qu'on manque en réalité les véritables choix qui pourraient se développer. Le numérique, c'est pas une sorte d'objet qui connaîtrait son développement sur une autre planète et puis qui débarquerait chez nous. C'est les êtres humains qui font le numérique tous les jours. Et je vais vous prendre un exemple très très simple. Moi, j'ai un appareil photo qui a un capteur GPS dedans. Donc, quand je prends une photo, si je le veux, il peut géolocaliser l'endroit où j'ai pris cette photo. S'il le fait, il n'y a que moi qui ai cette information. Elle restera dans ma photo, elle est là. Si vous prenez la même photo avec un smartphone, ce qui va se passer, c'est que, oui, il y a aussi un capteur GPS, mais quand vous prenez la photo, c'est tout immédiatement les opérateurs des systèmes d'exploitation qui vont avoir cette information. Le service qui est donné à l'usager, il est pratiquement identique. Évidemment, on mettra toujours un petit supplément de fonctionnalité. Vous pourrez retracer votre itinéraire comme dans un objet connecté. Vous pouvez savoir combien vous avez fait de pas dans la journée. Mais pour que vous sachiez combien vous avez fait de pas dans une journée, il n'y a pas besoin que Google et Google Life Science le sachent aussi. Donc, ces questions d'architecture des applications, évidemment, je ne reproche pas au Parlement de ne pas avoir légiféré sur l'architecture des applications. Mais je suis frustré que dans les politiques d'innovation des différents pays, on ne fasse pas de place pour cette différenciation et que vous entendiez partout le big data, c'est le futur de tout, le cloud, on va faire notre cloud souverain, qui sont tout simplement à dire, bon, il y a des choses qui sont en fait, ont des effets nuisibles, eh ben, on va les faire nous, ça sera mieux, quoi. non, c'est pas le cas.
Vous avez beaucoup parlé de sociétés américaines, on va y revenir tout à l'heure. Il y a une question que je me posais, c'est de savoir s'il y a des sociétés à l'intérieur de l'Europe qui, elles aussi, se mettent en faux en matière de stockage ou de gestion des données personnelles. Parce qu'on a l'impression que les États-Unis, c'est le grand méchant loup, la Chine, etc. Ce sont des pays que vous avez cités. En Europe, est-ce qu'il y a des moutons noirs à l'intérieur même du continent européen ?
Je dirais que oui. Vous savez, la CNIL conduit par exemple 500 contrôles par an. On a 8000 plaintes par an. Voyez, donc ce que je veux dire, tout ça n'est pas à partir de rien.
Et les contrôles positifs ?
Les contrôles, si vous voulez, sur 500 contrôles, in fine, on aboutit à une quinzaine de sanctions financières. Donc la plupart des contrôles se traduisent par des mises en conformité via différents moyens, mais il y a énormément de problèmes. Qui viennent peut-être d'une incompréhension, d'une inculture par rapport à la protection des données. Et en tout cas, nos concitoyens, et là, moi, je suis tout à fait ce que dit Philippe Aigrin, nos concitoyens sont quand même de plus en plus sensibilisés au fait qu'ils veulent garder la maîtrise de leurs données. Et c'est pas toujours le cas avec des acteurs, y compris européens. Ça, c'est évident. Hein. Mais une des choses que va apporter le règlement, c'est aussi de donner à la régulation une crédibilité plus forte. Pourquoi ? Parce qu'il y a un niveau de sanction qui augmente considérablement, puisque 2 à 4% du chiffre d'affaires mondial.
C'est énorme. Alors,
c'est énorme. Ça veut dire qu'on s'inspire du droit de la concurrence et on tape le poing sur la table en disant « Maintenant, les données, c'est sérieux. » Et le règlement européen, c'est un règlement qui met l'individu et le consommateur au cœur des choix, c'est-à-dire qu'il y a des droits plus importants, il y a des consentements qui sont plus systématiquement recherchés. Et si les entreprises, les acteurs économiques ne respectent pas ça, il y a une possibilité de sanction qui est beaucoup plus importante. Donc si vous voulez, tout ça, bien sûr que tous les Européens ne sont pas vertueux. Il ne faut pas considérer qu'il n'y a que les Américains ou les Chinois qui font des manquements en matière de protection des données, bien sûr que non. Mais là, on se dote, si vous voulez, d'un cadre réglementaire qui, je crois, est crédible, et qui va dans le sens d'une innovation robuste, c'est-à-dire une innovation qui peut respecter les données, voyez, qui se fait à partir des données, mais qui peut les respecter.
Marc Tarabella, apparemment, ces négociations autour du nouveau règlement européen ont été assez costauds, hein, disons. 4 années de discussion, il y a eu 4000 amendements. Il paraît, en tout cas c'est ce qu'on lit dans la presse, qu'on n'avait jamais autant déposé d'amendements pour un seul dossier législatif au Parlement européen. Pourquoi, selon vous, ça a été tendu à ce point ?
Parce qu'on se rend bien compte que c'est un débat qui a été très controversé. Pourquoi ? Parce qu'il y a les tenants de ceux qui veulent défendre absolument l'économie numérique à tout prix et qui évidemment mettent peut-être au second plan la nécessaire législation sur la protection des données, la protection de la vie privée. Et puis il y a évidemment une autre partie des députés qui sont peut-être dans la tradition européenne de dire l'économie numérique c'est très bien, mais il faut quand même veiller à conserver nos valeurs, c'est-à-dire à protéger les données, à ne pas les utiliser à l'insu des personnes et que la collecte se fasse dans le but finalement qui est prévu par l'application ou les applications et qui sont plus tenants de la défense des consommateurs, des citoyens, qu'on n'utilise pas abusivement leurs données. Donc forcément, ça crée des étincelles, des débats très controversés qui génèrent parfois des milliers d'amendements. Donc il faut arriver à des compromis équilibrés et c'est ce qu'on est arrivé à faire. Bon, c'est des dossiers très longs effectivement, mais clairement aussi, tout est globalisé aujourd'hui et c'est vrai que l'influence évidemment de l'économie numérique essentiellement d'origine américaine et donc c'est un entrechoc de deux cultures en fait, où la culture américaine, pour résumer, tout est bon pour faire du business, c'est le business qui est au-dessus de tout, le reste étant inféodé au fait de faire du business. Et au niveau européen, pour je dirais la majorité des députés, le business c'est bien, mais il faut qu'ils respectent certaines règles, et en tout cas les règles sur la vie privée des citoyens consommateurs. Et voilà pourquoi ce dossier fut très controversé, parce que très sensible, et parce qu'on se rend compte aussi que l'économie numérique prend de plus en plus de place dans nos vies et en prendra certainement de plus en plus dans le futur.
Marc Tarabella, Isabelle Falque-Pierrotin, Philippe Aigrin, Carrefour de l'Europe. l'Union européenne au défi de la protection des données personnelles. C'est notre débat aujourd'hui. On se retrouve dans 3 minutes sur la radio de l'Europe et du monde, juste après les infos.
Carfejské.
Kruzemion tuda Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Vincent Sourieux, Guillaume Meunier.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Carrefour de l'Europe, la tête dans les données aujourd'hui. Notre âge, notre adresse, notre orientation sexuelle, nos photos, nos vacances, nos centres d'intérêt, cette vie privée que nous étalons sur le net pour certains. C'est le pactole du 21e siècle qui en profite. Et pourquoi faire? Faut-il que l'Europe se protège encore davantage? Nos invités sont toujours là. Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL et du G29, le groupement des CNIL européennes, le député socialiste européen Marc Tarabella et Philippe Aigrin, cofondateur de la Quadrature du Net. Un cas pratique tout de suite avec la rédaction de Courrier International. Bonjour Carole Lambezaf.
Bonjour Vincent.
Le cas pratique, c'est Pokémon Go. Difficile de passer à côté ces temps-ci. C'est un jeu, évidemment. C'est un jeu sous forme d'application mobile et c'est un carton aussi en ce moment. Il y a 30 millions de personnes qui utilisent Pokémon Go tous les jours. Or, derrière ce jeu, Carole, il y a un homme. Un homme qui s'appelle John Henke, c'est un Américain. D'habitude, il est plutôt discret. Mais on lit dans Courrier International cette semaine qu'il a... Disons qu'il a quelques casseroles derrière lui. Qu'est-ce que l'on sait de son parcours ?
Eh bien, aujourd'hui, John Henke est à la tête de Niantic Labs. C'est la société qui a développé Pokémon Go et qui est aussi une filiale de Google. Mais John Henke n'est pas un petit nouveau dans le monde de l'industrie numérique. Au début des années 2000, d'abord, il a fondé une société d'imagerie satellitaire qui a été rachetée quelques années plus tard par Google, déjà, et qui est devenue Google Earth. Vous voyez ce que c'est ?
Oui, c'est le service d'application satellitaire de Google.
Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, John Henke est devenu le responsable de toutes les applications géo de Google. En gros, tout ce qui avait trait à la localisation, comme Google Maps ou Google Street View, se faisait sous la houlette de cet homme. Et ce que nous apprend l'article du journal en ligne The Intercept cette semaine, c'est que John Henke s'est retrouvé au cœur de l'affaire WiSpy. WiSpy, c'est le plus grand scandale d'atteinte à la vie privée de l'ère Internet. Ces services ont recueilli des dizaines de milliers de données personnelles pendant des années.
C'est peut-être pour ça, justement, Carole, que des voix se sont élevées pour dire « Attention, Pokémon Go, c'est un jeu, mais pas seulement ».
Oui, Pokémon Go, c'est aussi un véritable aspirateur à données personnelles. Forcément, il demande l'accès à votre appareil photo, mais surtout au GPS de votre téléphone portable. Parce que Pokémon, c'est un jeu qui est basé sur la connaissance précise de votre localisation. Ce qui signifie que tant que l'application est allumée, Pokémon Go et donc Niantic Labs sait en permanence où vous vous trouvez. Et d'ailleurs, les conditions d'utilisation du jeu sont très claires là-dessus. Le problème, c'est qu'avec le passé de son fondateur et son implication dans l'affaire WiSpy, on a du mal à imaginer que ces données soient les seules récupérées et qu'elles soient bien protégées. Le journal en ligne The Intercept nous rappelle d'ailleurs que les joueurs se sont fait une petite frayeur dès la première semaine quand ils ont découvert que le jeu accédait à tout un tas de données de leur compte Google. Pour Niantic Labs, c'est juste une erreur et la société assure que Google ne s'est pas servi de ces données. Cela dit, il ne faut pas croire que Pokémon Go soit la seule application à détenir des données personnelles. Il y en a même certaines que nous mettons volontairement sur les réseaux alors que nous n'avons aucune idée de ce qu'elles deviennent.
Merci Carole Lambezaf. Article à lire dans Courrier International cette semaine et sur le net courrierinternational.com. Marc Tarabella, elle vous a mis en colère cette application Pokémon Go. Vous dites qu'on prend les citoyens européens pour des pigeons.
Ben oui, mais Madame Lambezard a très bien décrit le phénomène, c'est-à-dire que sous prétexte d'un jeu qui est gratuit, donc c'est évidemment l'utilisateur qui est le produit, comme on l'a dit tout à l'heure, selon le proverbe, ben c'est vrai que pour jouer cette application, d'abord on demande d'accepter la politique de confidentialité, politique qui se trouve sur un document qui est tiers, et qui comporte 10 000 mots. Hein. Donc l'utilisation générale, vous cliquez, c'est 10 000 mots. Sur un smartphone, c'est à peu près 30 pages à 4, c'est impossible à lire. Vous acceptez évidemment de manière implicite, mais... Et clairement, ben, il se donne l'accès, donc la société Niantic recueille votre adresse email Google, mais aussi celle de votre compte Facebook, mais encore celle qui est laissée dans le club des dresseurs de Pokémon, ainsi que les paramètres de confidentialité que vous avez déterminés pour ces sites. Alors, il y a évidemment des cookies qui sont placés sur votre appareil à votre insu pour pister sa navigation, non seulement pour savoir où vous êtes, mais aussi pour savoir quelle est la page Internet sur laquelle vous avez surfé, quelles sont les pages sur lesquelles vous surfez, quels sont vos goûts. Et évidemment, on fait un fichier à votre insu qui sera vendu ultérieurement, évidemment, et utilisé ultérieurement, et je le répète, à votre insu. Et donc, c'est ça qui est inacceptable en regard, et ça viole évidemment le règlement sur plusieurs aspects, le règlement qu'on a voté. C'est pour ça que je dis à la Commission européenne, j'ai demandé qu'elle l'enquête. L'avais fait avec Tinder et Happn, d'autres applications de rencontres, et entendons-nous bien, je ne suis pas contre. Je ne jouerai jamais au Pokémon Go, mais quand je vois des jeunes ou des moins jeunes courir après des Pokémon, je me dis que c'est pas plus malsain que de rester dans son fauteuil avec une canette de cola et un chips à la main, jouer devant sa console vidéo à un jeu hyper violent. Donc pourquoi pas? Et les applications de rencontre, moi je regrette de ne pas les avoir eues quand j'étais plus jeune, ça m'aurait peut-être facilité les choses pour draguer.
Donc moi je suis sûr que vous y avez bien réussi quand même.
Oh, j'ai parfois réussi, puis j'ai eu des échecs aussi, évidemment, c'est normal, ne soyons pas prétentieux, mais clairement et sérieusement, ça aide, et les applications aident, c'est très bien, mais l'utilisation abusive qui en est faite à l'insu des consommateurs, et donc des citoyens, c'est ça contre le quoi il faut s'insurger, et c'est là que je demande à la Commission européenne de ne pas se retrancher devant le fait que c'est une politique des États membres, et donc devant les 28 autorités nationales et donc le G29, c'est la Commission doit aider, et j'espère que les autorités nationales vont se fédérer, et c'est pour ça que j'ai proposé aussi, et là peut-être que Madame Falque-Pirota pourra m'éclairer, savoir si, à l'instar de ce qui existe pour les produits de consommation courante, exemple un jouet qui vient parfois de et souvent d'ailleurs de Chine, ou en tout cas extra-européen, quand il est importé en Europe et qu'il fait défaut, qu'il y a un problème de dangerosité par exemple, il y a le système RAPEX. Et donc un État membre peut dire « attention, ce jouet-là c'est dangereux », et les autres peuvent évidemment prendre les mesures en conséquence. Ben, j'aurais voulu, et je ne sais pas, ça existe peut-être déjà, qu'au travers des autorités nationales, on s'échange des données, qu'on puisse dire « tiens, là où il y a un problème sur la vie privée, peut-être qu'automatiquement, dans les 27 autres États membres, eh bien, on puisse avoir la même démarche, se fédérer, que la Commission européenne puisse jouer son rôle, comme je le disais tout à l'heure, de gardienne des traités et des lois, et surtout des lois et des règles que l'on vote, car il ne sert à rien de voter des textes si, à un moment donné, quand ils sont violés, eh bien, on ne fait rien. Ça n'a pas de sens. Et là, on est quand même plus fort à 28, bientôt 27, mais on est plus fort au niveau de l'Union européenne que chacun seul dans son coin.
Je crois que Monsieur Tarabella a raison. L'important, c'est que, vis-à-vis de ces grands acteurs de l'Internet, l'Europe soit capable de parler d'une voix unie. Et que le G29 et les autorités nationales de protection des données aient, bon an mal an, la même position. Donc c'est exactement ce qu'on a essayé de faire depuis 4 ans, vis-à-vis de ces grands acteurs de l'Internet, par rapport au problème qui est illustré par Pokémon Go, qui est notamment le problème de la combinaison de données. Parce qu'effectivement, le modèle économique de ces acteurs, il est construit sur la combinaison de données la plus large possible, permettant de faire du ciblage et de revendre ensuite au cas par cas les données.
Combinaison de données,
c'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le service auquel vous avez accès, dans une galaxie Google ou dans une galaxie Facebook, en fait, ces services alimentent une gigantesque base de données qui est constituée sur vous et qui permettent de vous cibler. Et en fait, cette combinaison de données entre les différents services, la plupart des utilisateurs n'en ont absolument pas conscience. C'est ça qui permet d'utiliser la navigation YouTube pour, influencer un ciblage que vous allez retrouver ailleurs sur un autre service de Google. Voyez. Donc, en soi, la combinaison de données n'est pas illégale, parce que si vous commencez à dire ça, vous rentrez dans le modèle économique des acteurs, et je crois que c'est pas sain. En revanche, il faut que les individus, il faut que le consommateur soit conscient de ça et puisse consentir, maîtriser sa combinaison de données. Peut-être que finalement, pour certains, ça n'a aucune importance que le mail soit scanné et permettent de dégager des mots-clés et donc de vous cibler, alors que pour d'autres, c'est très important et ça doit être exclu de la combinaison de données. Vous voyez, on a tous des choix qui vont nécessairement pas être les mêmes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ça soit l'individu qui soit à la manœuvre. Donc, dans les différents cas que nous avons eus, en France et en Europe, on a négocié et discuté avec les grands acteurs de l'Internet pour justement les obliger à donner des garanties aux individus de maîtrise de cette combinaison de données. Alors, on n'y est pas encore. Parce qu'évidemment, on est au cœur du réacteur, là. Et ils sont pas du tout prêts à ça. Mais je crois que c'est très important que on aille dans ce sens-là, que l'Europe soit capable de parler d'une voix unie. Et quand je dis l'Europe, il faut bien mesurer que c'est très difficile, même entre les autorités nationales de protection des données, de parler d'une voix unie. Parce que, en réalité, les pays européens ont quand même des intérêts économiques qui sont pas exactement les mêmes. On le sait bien. On sait qu'il y a des pays qui attirent et qui accueillent plus d'investissements et de sociétés internationales type GAFA. Et évidemment, leur dialogue avec les grands acteurs n'est pas exactement le même. Donc, il faut qu'on trouve un chemin entre toutes ces contraintes, si on veut être crédible, si l'Europe numérique veut être crédible, il faut qu'on soit capable de parler d'une voix unie par rapport à ces acteurs-là.
Philippe Aydrin.
Alors, c'est un des points sur lequel j'ai peut-être une sensibilité ou un point de vue un peu différent. Moi, je pense que nous n'aurons pas le choix que de faire autre chose que d'entrer bel et bien dans le modèle économique des acteurs et de comprendre que quand vous avez un acteur qui fait 95% de ses revenus de la publicité ciblée, quoi qu'il puisse raconter dans ses conditions générales d'usage, quoi qu'il puisse mettre en place pour faire que le consentement soit un peu moins bidon dans ses effets qu'il a été précédemment, en réalité, on peut pas lui faire confiance, parce que il cherchera toujours des moyens de contourner. Et on va arriver simplement à une sophistication sans cesse croissante des moyens de contrôler. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. Il y a un exemple, je crois que le parallèle entre l'évasion fiscale et la protection des données est extrêmement illustre. Parce que pendant longtemps, on a dit, mais on peut rien faire contre l'évasion fiscale. D'abord, il y a l'unanimité, on peut rien faire. Bon, tu sais, la commission, il y a toujours l'unanimité, mais n'empêche, elle a foutu une amende de 13 milliards d'euros à l'Irlande qu'on dénonce depuis 20 ans. Pour ces pratiques d'attraction de l'évasion fiscale. Et entre parenthèses, là, tout autant française qu'américaine. C'est juste que les entreprises françaises qui en profitent sont un peu plus petites.
Mais quand vous parlez du modèle économique, ce que vous dites, en fait, c'est l'Europe doit dire à ces sociétés américaines, si vous ne changez pas vos manières de faire, vous ne pourrez plus faire le commerce avec nous. C'est ça ?
C'est pas exactement ça que je dis. Il faut développer et la conscience et les alternatives pratiques. Parce que si vous avez seulement la conscience que ce modèle économique est pervers, mais vous n'avez aucun moyen de tirer les satisfactions de l'environnement numérique à un degré aussi important ou plus important, alors vous serez simplement, vous n'aurez gagné que la culpabilité du renoncement, en fait, en quelque sorte. Donc ce qui est très très important, c'est qu'il y ait à la fois des politiques qui interdisent ce qui est le plus détestable dans ses pratiques et elles courront toujours derrière, mais ça c'est exactement comme les politiques environnementales, les politiques, et d'autre part une action résolue pour encourager des dispositions qui sont autres. Vous prenez, moi, le domaine que je connais bien, le domaine des dispositifs qui permettent de lire, qu'il s'agisse des logiciels ou de dispositifs matériels comme les liseuses. Mais si vous regardez les grandes sociétés qui produisent ces dispositifs principalement américaines, ces sociétés vous diront, ce qui a de la valeur, c'est de savoir comment les gens lisent. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils annotent sur un livre, et ça m'appartient à moi, pas à vous. Donc, au besoin, quand je ferai une nouvelle version, vous perdrez toutes vos annotations, mais c'est pas grave parce qu'avant j'aurais réussi à capturer ces informations, et ces informations, je les vendrais aux éditeurs en leur faisant croire que comme ça ils pourront savoir d'avance si quelque chose va être un best-seller, mais je les vendrais aussi à tout l'espace des annonceurs qui essaient d'influencer les comportements. Il faut arrêter de penser que une société comme Google est en fait un acteur économique. Google est un acteur de gouvernement. c'est un acteur qui essaye de gouverner les comportements des gens. Et par conséquent, il y a un enjeu démocratique à agir sur, et c'est pas que Google, hein, et d'une certaine façon, vous pouvez regarder tout ce qui se passe dans le champ de la sécurité des États, c'est une sorte de jalousie des États qui veulent devenir dans leur champ particulier d'action, avoir les mêmes techniques de profilage pour dire, non pas pour influencer directement sur le comportement, mais pour, par exemple, détecter des suspects. Ils utilisent des techniques de croisement qui sont similaires et ils rêvent. Après les attentats de janvier de 2015, si je ne me trompe pas, le premier action de Monsieur Cazeneuve, ça a été de se rendre dans la Silicon Valley pour discuter avec les grands opérateurs.
Non, juste pour rajouter, je crois que Philippe a raison. Il faut une offre alternative. Et aujourd'hui, à mon avis, l'offre alternative, elle est recherchée aussi par le public. Quand vous voyez les jeunes, ils ne sont plus tellement sur Facebook.
Moi, je ne suis plus assez jeune.
Non, vous n'êtes plus assez jeune. Mais les jeunes, vraiment, de 15-20 ans, ils sont sur Snapchat, ils sont sur d'autres applications.
Et on sent bien que,
quelque part, l'idée que la donnée, dont le fond, il faut qu'on en garde la maîtrise, que ça peut être plus frugal. Vous voyez, la notion de frugalité, un service qui est finalement moins consommateur de données. Ça, c'est des notions qui n'existaient absolument pas il y a 3-4 ans, qu'on commence à voir arriver maintenant. Donc, je crois que c'est intéressant, parce que ça met en tension ces modèles économiques dominants, en leur disant, attendez, pour le moment, vous êtes dominants, mais regardez bien les attentes, entre guillemets, des consommateurs citoyens.
Marc Tarabella.
Oui, moi je voulais faire une distinction entre l'intérêt général public et l'intérêt privé. Et ce n'est pas ringard que de dire ça. Si le ministre Cazeneuve est allé dans la Silicon Valley, il a bien fait. Pourquoi ? Parce que il représente la force publique. On sait les menaces qui pèsent aujourd'hui, a fortiori, et en France, en Belgique, mais partout dans le monde, par rapport à la sécurité, la menace de la sécurité du citoyen, qui est quand même un des premiers droits du citoyen, c'est de vivre en sécurité. Que la force publique utilise des méthodes d'enquête, de filtration, de recueil de données, qu'on n'a à la limite pas à connaître, si c'est pour une utilisation, je dirais, de protection dans l'intérêt public, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est effectivement l'intérêt privé que je distingue clairement de l'intérêt public. Si c'est pour faire des fichiers destinés à avoir des publicités ciblées, ou peut-être pire, si c'est pour calculer votre nombre de pas par jour et de faire une assurance, quand vous avez une assurance d'essai ou protection, qui soit d'un tarif différent parce que vous faites moins de pas ou vous faites pas du tout par rapport à quelqu'un qui fait 6000 pas par jour, quelqu'un qui ne fume pas par rapport à quelqu'un qui fume, alors qu'on brise l'idée de mutualisation, parce que l'assurance est une couverture qui doit être la même pour tout le monde, on se couvre contre un risque. Et évidemment, ça me gêne, parce que clairement, la distinction entre l'intérêt public, l'intérêt de tout le monde, et l'intérêt particulier, généralement économique, et qu'on utilise des données à l'insu des citoyens, mais pour un intérêt purement privé qui va peut-être discriminer dans le futur, ça me pose problème. Et je crois qu'il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Donc si le public... Vous savez, la criminalité a tellement évolué, je crois que la force publique a le droit et le devoir d'évoluer aussi, si possible, plus vite, de manière à contrecarrer tout ce qui menace les citoyens. Et je parle évidemment d'une période où on a beaucoup souffert de faits crapuleux et où malheureusement on est encore exposé probablement à les vivre dans le futur.
Alors, à ce propos, justement, il y a une application en particulier qui fait beaucoup parler d'elle, elle s'appelle Telegram, et ce serait le canal préféré des terroristes, justement. C'est une application créée en Russie par un homme, Pavel Durov. On a demandé à Anya Stroganova, qui travaille à la rédaction russe d'RFI, de nous dresser le portrait de ce petit génie de l'informatique, justement. Anya, bonjour, privet.
Privet.
Qui est-il, Pavel Durov ?
Durov, il a quitté la Russie il y a 2 ans, en 2014, en expliquant qu'il était victime de pression de la part du pouvoir et qu'il a refusé de collaborer avec les autorités qui lui demandaient de remettre des données personnelles des utilisateurs du réseau social. C'est quelqu'un qui est connu pour être un télo, assez introverti, voire secret, polyglotte, et quelqu'un qui est un peu anarchiste aussi parce qu'il refuse de se soumettre à n'importe quelle autorité, à n'importe quel état ou pouvoir. C'est quelqu'un qui n'accepte presque jamais d'interview, très rarement, et il est insaisissable, on ne sait pas où il vit. On le voit d'un coup à Paris, et le lendemain à Berlin, où se trouve justement le siège de Telegram, puis on le voit à Barcelone. Il faut dire qu'il peut se le permettre de vivre là où il veut parce qu'il est très riche. Il fait partie de la liste russe Forbes avec sa fortune de 600 millions de dollars.
Ici, en France, depuis les attentats, en Belgique aussi, il y a beaucoup de gens qui critiquent Telegram parce que c'est une application sécurisée qui est très utilisée par les djihadistes. Est-ce que c'est le cas aussi en Russie ?
Non, c'est pas du tout le cas en Russie parce que Telegram, c'est une application qui est utilisée beaucoup par les journalistes, par les activistes, par les opposants politiques. Telegram permet en fait de créer des chaînes publiques. C'est comme des blogs, en fait, n'importe qui peut créer son blog sur Telegram. Or, en Russie, c'est devenu presque un média à part entière puisqu'il y a beaucoup de journalistes russes qui créent leur propre chaîne pour parler de la politique, de la musique, des livres, du cinéma, de l'histoire, de la science. En fait, c'est ça la particularité de Telegram et cette possibilité-là, WhatsApp ne l'offre pas.
Isabelle Falque-Pierrotin, dans certains pays, on l'entend comme en Russie, Telegram et autres servent à échapper au contrôle parfois autoritaire des gouvernements. Comment est-ce que l'Union peut répondre à la demande de Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur, et de son homologue allemand, qui veulent encadrer le chiffrement des télécommunications ?
Ben, je crois que c'est une question difficile. C'est une question difficile. Le chiffrement permet aussi d'assurer la sécurité de l'ensemble de cet écosystème numérique. Effectivement, Telegram pose un problème parce que le chiffrement est entièrement à la main de l'individu. Maintenant, face à ce problème, la question est de savoir si la solution de mettre des portes dérobées dans toutes les applications dont Telegram est la bonne réponse. Nous, à la CNIL et au G29 d'ailleurs aussi, nous pensons que ça n'est pas la bonne réponse parce que si vous mettez des portes dérobées systématiquement dans toutes les applications de chiffrement, en gros, c'est comme si vous construisiez une maison où, a priori, vous réservez dans la maison une porte pour que la police entre. Vous voyez, ça va pas. La sécurité de votre maison, elle conviendra pas. Donc, on fragilise l'ensemble de l'écosystème numérique si on met en place ces portes dérobées. Donc, il faut réfléchir autrement. Ça n'est pas nécessairement le métier de la CNIL ou du G29 de fournir la réponse, voyez. Mais en tout cas, ce que nous avons dit, c'est que le chiffrement est indispensable à la sécurité de l'écosystème numérique. D'ailleurs, le projet de loi sur la République numérique vient de charger la CNIL d'une mission de promotion des technologies de chiffrement. On vient de le faire.
Mais on voit que c'est très compliqué.
Donc, vous voyez, il y a une forme d'incohérence. On a par ailleurs des tas d'outils juridiques qui permettent d'avoir accès aux données. On a des ressources publiques techniques qui existent. Donc, il faut utiliser ça. Peut-être qu'il faut renforcer le pôle de chiffrement, déchiffrement commun au niveau européen, voyez. Mais en tout cas, il ne faut pas mettre des portes dérobées partout.
Philippe Aigrin, c'est compliqué de concilier sécurité et liberté.
Oui, c'est compliqué. Et on n'arrivera pas à avoir un respect minimum des droits fondamentaux en estimant que ça ne devrait jamais avoir d'impact sur la sécurité. Parce que si on avait pris ces dispositions-là, nous ne vivrions pas dans des états de droit. Et il faut se rappeler que à l'origine des dispositions sur la protection des données, il y a la protestation contre des fichiers qui étaient tout à fait établis au nom de l'intérêt public. Le fichier scolaire, le fichier de l'aide sociale, le fichier de l'enfance en difficulté, c'est tout ça qui, dans les années 70, et à cause de mon âge, moi j'étais déjà là, et militant pour la protection des données, c'est tout ça qui a donné naissance à une loi qui s'appelait Informatique et Liberté, hein, et pas simplement Informatique et Protection sécuritaire de vos données. Hein. Donc, après, il y a la question de savoir comment quand même laisser aux enquêteurs et en particulier aux judiciaires la capacité d'investiguer sur des actes commis ou imminents. Et évidemment, On n'a jamais, nous n'avons jamais protesté, par exemple, contre la possibilité du déchiffrement sur mandat judiciaire. Et la commission numérique de l'Assemblée nationale, à laquelle j'ai participé pendant un an et demi, a adopté des recommandations, et de même d'ailleurs que la commission italienne et de la déclaration commune de ces deux commissions, pour défendre la légitimité des technologies de chiffrement. Et après, ce qu'il faut, c'est des limites encadrées à la possibilité de porter atteinte au secret des correspondances et des communications. Une société où il n'y a pas ces limites, c'est pas un état de droit.
Marc Tarabella, vous faisiez la distinction tout à l'heure entre intérêt privé et intérêt public. Pour le coup, sur ce cas particulier du chiffrement et du terrorisme que la Belgique a malheureusement connu ces derniers mois, comme la France, comme l'Allemagne, quelle est votre position ?
La position, c'est qu'il faut effectivement tout faire pour essayer effectivement de pouvoir déchiffrer les messages. Et je crois que l'autorité publique doit se donner tous les moyens d'avoir la possibilité de contrer la sophistication dans la technologie qui soit contraire à l'intérêt des citoyens. Donc à un moment donné, si ça passe par effectivement, je crois que là il peut y avoir un défaut de transparence. Je pense que l'autorité publique doit pouvoir être moins transparente. On n'a pas besoin de tout savoir. Et si l'autorité publique, évidemment, utilise des moyens pour obtenir cette capacité à aller déchiffrer des messages, il ne faut pas que ce soit sur la place publique. Il ne faut pas que ça fasse la une du JT de 20h. Il faut que ce soit... c'est dans l'intérêt public. Et l'intérêt public, mais évidemment, il ne faut pas non plus s'écarter de l'intérêt public et utiliser les données à d'autres fins, parce que l'intérêt public, le public peut aussi, n'a pas toutes les vertus, il peut parfois aussi avoir des dérives. Et donc, c'est là qu'il faudra aussi être attentif. Mais moi, je crois qu'à un moment donné... La démocratie aujourd'hui, peut-être par excès de démocratie, on est en train peut-être de générer les germes de notre autodestruction. Et donc, il faut peut-être utiliser des technologies à l'insu du grand public pour justement contrer ceux qui menacent la démocratie.
Carrefour de l'Europe, c'est terminé pour cette semaine. Marc Tarabella, député belge, européen et socialiste. Philippe Aigrin, cofondateur de la Quadrature du Net et co-éditeur cette année de Surveillance. C'est paru aux éditions publi.net. Merci beaucoup à vous également, Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Vous dirigez aussi le G29 qui regroupe les CNIL à l'échelle européenne. Dans quelques secondes, c'est le journal. On se retrouve la semaine prochaine au Carrefour de l'Europe.
Appel sur l'actualité.